Salutations du matin, Alain Baraton.
Salutations Eric Delvaux, salutations Patrice et Martin, oui, salutations à tous.
Sans rancune.
Avec le portrait ce matin, portrait d'un homme heureux avec vous.
Et oui, c'est en ces termes que vous avez invité la semaine, c'est en ces termes que votre invité de la semaine dernière, l'admirable Eric Orsenna, évoque la mémoire d'André Le Nôtre dans un livre paru en 2000 aux éditions Fayard. Et c'est en apercevant notre académicien préféré dans ce studio que j'ai pris conscience que je ne citais jamais où. Pratiquement jamais, ce grand jardinier à qui pourtant je dois beaucoup. Ce matin donc, portrait d'un homme heureux.
Est-ce qu'il était vraiment heureux?
Eh bien, j'ai un doute à ce sujet, car je sais que la vie de Le Nôtre fut jalonnée de peine, comme celle de perdre tous ses enfants en bas âge. Le Nôtre vivait aussi, avec regret, c'est du moins ce que je pense, le fait d'avoir raté une carrière d'artiste peintre.
Il est vrai que dans sa famille, la famille Le Nôtre, on doit être de jardinier de père en fils.
Oh là oui, son père était jardinier, il était aux Tuileries, son grand-père l'était aussi, et son parrain, André Bérard de Maisoncelles, à qui d'ailleurs il va donner son prénom, était lui-même contrôleur des jardins sous Henri IV. Alors si la véritable vocation du jeune André est la peinture, il a d'ailleurs suivi les écoles, les cours de Simon Vouet au Louvre, eh bien il faut vivre aussi. Aussi achète-t-il en 1637 la charge occupée par son père au jardin des Tuileries. Et très vite, Le Nôtre va se distinguer par son talent. En quelques années seulement, il est nommé dessinateur des jardins du roi, et c'est un titre prestigieux, et peut en 1657 acheter un autre titre encore plus prestigieux, l'office de contrôleur général des bâtiments du roi.
Avec une telle charge, il a dû gagner des fortunes.
Oui, alors déjà pour acheter la charge, il fallait des sous, 40 000 euros, c'est une très très grosse somme, mais il est vrai que le poste est très très rentable, et Le Nôtre, contrairement à moi, deviendra vite un homme très riche. En 1675...
Vous n'êtes pas riche?
Non, pas tant que ça.
J'abandonne tout espoir.
Je ne me plains pas, mais bon, voilà. En 1660, alors, j'adore cette petite citation, pardonnez-moi, qui n'a rien à voir, qui disait, elle voulait épouser un homme, elle voulait un mariage d'amour, aussi ne fréquentait-elle que les hommes riches.
C'est pas... La suite de Le Nôtre.
En 1675, c'est la consécration quand Louis XIV décide de l'anoblir. Enfin, anecdote amusante qui devrait, Patricia, vous séduire, quand le roi lui demande les symboles qu'il aimerait voir sur son blason, Le Nôtre lui rappelle ses propos sur la lenteur des travaux qu'il conduit. Et Le Nôtre va donc choisir pour emblème 3 limaçons couronnés d'une feuille de chou.
Et il arrive à ce jardinier Le Nôtre d'être parfois contrarié.
Et on le comprend. Quand il revient d'un long voyage en Italie, il découvre avec stupéfaction, je pourrais même préciser avec horreur, que son bosquet des sources, un bosquet merveilleux, a fait place à la colonnade de l'architecte Mansart. Quand Louis XIV lui demande son avis, Le Nôtre lui répond par cette phrase que je trouve moins merveilleuse. Eh bien, sire, que voulez-vous que je vous dise? D'un maçon, vous avez fait un jardinier, il vous a donné un plat de son métier. Alors Le Nôtre, comme vous pouvez le constater, ne manquait pas d'humour. Il était d'ailleurs le seul à Versailles, je dis bien le seul, devant lequel le roi se découvrait. Heureux, je ne sais pas s'il l'était, mais respecté, sans aucun doute.
Alain Baraton, à présent, vos conseils et vos réponses aux questions des auditrices et auditeurs de France Inter. Joseph veut vous parler de son kiwi. Depuis 2 ans, les fleurs de notre kiwi tombent sans donner de fruits, alors que d'ordinaire, nous avions des centaines de kiwis, des centaines de fruits. Que faire donc?
Il y a deux façons de répondre ou d'essayer de trouver une explication. La première, elle est simple, le gel tardif. Il arrive qu'effectivement, des gels au printemps puissent détruire la floraison des kiwis. Le kiwi est une plante qui supporte les froids, même importants, mais la fleur, elle, est relativement délicate. Donc, ça peut être une explication. Les fleurs apparaissent au printemps, le gel arrive, et du coup, il y a avortement, la fleur tombe, il n'y aura donc pas de fruits. Deuxième explication, et là je pense à Bourville qui chantait cette chanson merveilleuse, les abeilles, je ne sais pas si vous vous rappelez. Eh ben oui, ben les abeilles.
Vous faites très bien Bourville.
Oui, je fais aussi très bien les abeilles. Eh bien, voyez-vous, il y a un problème de pollinisation. Les kiwis, en général, il existe des variétés auto-fertiles, mais en général, les kiwis ont besoin d'être plusieurs pour se reproduire. La plante est dioïque, il faut donc des fleurs mâles et des fleurs femelles. Il faut donc un mélange, il faut que le pollen se dépose sur les étamines. Et s'il n'y a pas une petite bestiole comme le bourdon ou l'abeille, eh bien, il ne peut pas y avoir de pollinisation. Et quand une fleur n'est pas pollinisée, que fait-elle? Elle meurt. Donc je crois qu'il y a un problème effectivement lié à l'absence de pollinisateurs qui fait que le kiwi n'est pas en mesure de se reproduire normalement. Ce qui montre bien l'intérêt de préserver l'environnement, l'intérêt de cesser de mettre dans l'atmosphère des insecticides parce qu'on n'a pas idée du nombre de plantes qui ont besoin des petites bestioles pour se reproduire.
Jackie voudrait vous parler de son prunier dont les feuilles se rabougrissent l'été. D'ailleurs, la seule prune qu'il a donnée, ce prunier, c'est ce fruit n'a pas dépassé la taille d'un haricot. Et elle précise que quand on bouge le tronc du prunier, on a l'impression qu'il n'est pas enraciné. Qu'est-ce qu'on peut faire, docteur?
Tout est lié. Je pense que les boursouflures et le rougissement anormal des feuilles au printemps ont été dus à une maladie cryptogamique, la cloque du pêcher. En fait, cette cloque empêche la photosynthèse
cloque
de bien...
du pêcher ou du prunier, c'est pareil?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une cloque. C'est un champignon que l'on assimile à la cloque du pêcher. Les feuilles se vrillent, les feuilles. La plante ne peut pas réaliser la photosynthèse. Vous le savez mieux que personne, Eric. La photosynthèse, c'est la transformation de quantité d'éléments, de la lumière, de gaz carbonique en une énergie utilisable par la plante. La plante est donc fatiguée. Vu qu'elle est fatiguée, elle ne peut pas fructifier correctement, donc pas de fruits ou alors de la grosseur d'haricot. Elle ne peut pas non plus s'enraciner. Le végétal, au bout de quelques années, est encore instable. Donc on fait très simple. Ce prunier, à moins d'être déplacé maintenant, et je dis bien maintenant, n'a aucun avenir. On le fait, et encore, il est peut-être même déjà trop tard.
Agnès vous demande, quand peut-on dédoubler les agapanthes?
Il y a deux périodes, l'automne et le printemps. Moi, j'ai tendance à préférer l'automne, ce qui permet au végétal de bien s'enraciner. Le dédoublement de l'agapanthe, c'est simplement ce qu'on appelle la division de touffe. Vous sortez un gros pied, vous le coupez en plusieurs morceaux avec la bêche et vous replantez. Donc, c'est à l'automne et au printemps.
On va rappeler ce que c'est qu'une agapanthe. Ça ressemble à un long cou d'autruche avec une grosse boule au-dessus.
C'est une manière un peu brutale de décrire cette fleur merveilleuse, mais vous n'êtes pas dans le faux.
Il y a des violettes, des bleus et des blanches.
Eh ben, tout à fait. Mais c'est une plante qui symbolise effectivement très bien les bords de mer.
Un dernier conseil.
Alors, un conseil de lecture. C'est un bouquin complètement dément. C'est la nouvelle flore illustrée des Pyrénées. Elle est signée Marcel Saul. C'est de la démence complète on a encore aujourd'hui le courage d'éditer 3650 espèces sur des centaines de planches dans un ouvrage extraordinaire. Il faut du courage. C'est publié aux éditions du Pain à Crochet. 1380 pages. C'est un bouquin gigantesque. Un travail de dingue. C'est passionnant. Je rappelle le titre. Nouvelle flore illustrée des Pyrénées de Marcel Saul.
C'était la main verte d'Alain Baraton. À demain, Alain.
À demain.